Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent.
Rallie-toi à l'équipe la plus forte. C'est la seule chance que t'as de t'en sortir.
C'est pas juste ce qui est arrivé. Vous pouvez pas appuyer tuer des gens comme ça.
Vous avez tué ces gens.
Ce que l'on entend, c'est la bande-annonce de Squid Game, une série qui vient d'être diffusée par Netflix. Un succès colossal, planétaire, en quelques jours seulement, pour cette production sud-coréenne devenue un phénomène de société avec des dizaines et des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier. On en parle dans les cours de récréation alors qu'elle est déconseillée aux moins de 16 ans. On en parle au travail alors qu'elle est peut-être vue comme un brûlot anticapitaliste. On en parle entre amis alors qu'elle dénonce la déshumanisation de nos rapports sociaux. Alors que se passe-t-il dans les 9 épisodes seulement, caractérisé par de la violence décomplexée, une esthétique pop acidulée, des personnages surendettés espèrent gagner le gros lot en jouant à des jeux de cours de récréation comme le très innocent 1, 2, 3 soleil, mais dans Squid Games, les perdants sont exécutés sans pitié. C'est gore, glauque, trash. Alors pourquoi un tel engouement, comme si les jeux du cirque de l'ère romaine aux effets numériques près n'avaient pas pris une ride? Pour tout dire, ce phénomène Squid Game est-il dangereux? C'est la question du débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Ophélie Surcouf.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste des séries coréennes, rédactrice pour le magazine K-Society, auteur d'un livre sorti hier, Pourquoi la Corée, la vague coréenne et nous aux ateliers des cahiers. Bonsoir Sophie Géhel.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8. Auteur, vous, d'un ouvrage intitulé « Les adolescents face aux images trash sur Internet » aux éditions InPress. Carlo Fascino, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes le programmateur du festival Sérimania, qui aura lieu à Lille en mars 2022, spécialiste des séries asiatiques. Et nous sommes également en ligne avec vous, Marianne Chaillant, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Spécialiste de pop culture, auteur de plusieurs ouvrages, In Pop We Trust, Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur, c'est aux éditions de l'Équateur. Je le disais, Squid Game est numéro 1 des programmes les plus visionnés sur Netflix dans plus de 90 pays. Alors quels sont les ressorts de l'intrigue, quelles sont les clés, qu'est-ce qui explique ce succès planétaire, Carlo Fascino?
Il y a beaucoup de raisons. La principale, je pense, c'est la dissémination de cette violence. En fait, on est constamment dans l'attente, que ce soit dans l'organisation des jeux. Il y a 6 étapes, en fait, il me semble, dans cette histoire. Et ce sont des jeux, en plus, qui nous renvoient à notre enfance. Donc, il y a un petit peu cette volonté de découvrir quelle est la prochaine étape à chaque fois, quel personnage on va perdre, quelles sont, en fait, les issues.
La violence, c'est ce qui fait recette. C'est la clé de la réussite de Squid Game, Sophie Géhel.
C'est surtout la clé du marketing de Netflix. J'ai ouvert mon compte Netflix, j'avais 4 séries, moins de 16, qui m'étaient proposées. Et en premier lieu, m'était proposé donc Squid Game. Donc c'est une technique de marketing autour du choc, de la violence, qui correspond à ce qu'on appelle parfois l'économie de l'attention, c'est-à-dire comment mieux capter des publics, que surtout des publics multiculturels, que par la violence, le choc et la peur, la peur aussi bien qu'on voit dans les yeux du héros, dès le teaser.
La série est ultra bien réalisée, si je puis dire, avec des coloris pastel. Il y a toute une ambiance très coréenne, Ophélie Surcouf.
Tout à fait, oui. Et puis, il faut le dire aussi, c'est peut-être la série Netflix coréenne qui a été le plus sous-titré et doublé depuis le début de l'histoire de la plateforme. Le nombre de langages dans lequel cette série est accessible est assez impressionnant. D'ailleurs, tout à l'heure, on entendait justement le doublage français de la série. Donc ça a forcément aidé à ce qu'elle soit aussi internationale.
Alors chaque type de personnage est reconnaissable avec des tenues particulières, des vestes de jogging vertes pour les joueurs, des combinaisons rouges pour les gardiens, un masque noir pour le méchant, Marine Chaillant, ça joue cela énormément.
Probablement oui, j'ai lu effectivement beaucoup d'articles qui mettaient en avant cette qualité esthétique dont vous avez vous-même parlé de la série. Moi, je m'interroge quand même, je ne peux pas résumer le succès à ça, et c'est vraiment une question qui mérite d'être posée, qu'on pose ce soir, mais comment cette série, bien qu'esthétique, peut, et bien que bien promu, puisse atteindre un tel succès mondial, malgré sa violence, qui est quand même extrême.
Est-ce qu'elle joue sur le paradoxe, d'un côté l'environnement enfantin, très coloré, féerique, et puis d'un autre côté donc cette violence absolue, comme une sorte de rêverie macabre, Carlo Facino?
Absolument, et je pense que là on tient une des raisons, sinon la raison principale de son succès et de sa popularisation. En fait, c'est la même démarche qui explique l'émergence de la culture même sur Internet, c'est ce décalage, cette ironie, en fait, voire l'humour noir, qui fait que cette série, en fait, avait tout finalement pour plaire et pour être discutée et dissectée en fait en ligne.
Squid Game, qui a pris donc une ampleur énorme sur les réseaux sociaux. Le hashtag Squid Game, d'ailleurs, est régulièrement premier des tendances mondiales depuis le lancement de la série. C'était le 17 septembre. Et c'est un véritable déferlement, sauf JL. Tous les réseaux sociaux en parlent.
Oui, et ils en parlent. Enfin, c'est une série qui a quand même deux registres. Il y a un registre réaliste avec l'endettement du héros, ou l'endettement des différents prisonniers. Et puis, il y a le côté Playmobil de l'horreur, coupé qui tue. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement les petites séquences un peu Playmobil de l'horreur. Donc, c'est un choix aussi qui va promouvoir la série sur ce mode de l'humour noir, effectivement.
Alors, c'est un véritable déferlement, puisque sur TikTok, plus de 16 milliards de vidéos avec le hashtag Squid Game ont été vues. Sur Twitter, le hashtag revient en tendance plusieurs fois par semaine. Sur Instagram, les comédiens explosent leur nombre d'abonnés, notamment l'actrice Ho-yeon Jun, qui est passée de 400 000 à quasiment 10 millions d'abonnés en 10 jours. Ophélie Surcouf, vous surveillez ce qui se passe en Corée. C'est phénoménal, c'est du jamais vu.
C'est assez énorme. Après, que des stars coréennes aient énormément de succès à l'étranger, ça c'est pas forcément nouveau. C'est juste qu'effectivement, par contre, l'ampleur a été énorme récemment. Mais par exemple, BTS, il y a quelques années, qui a explosé aux États-Unis et qui explosait déjà ailleurs depuis un moment, a aussi un nombre de followers absolument gargantuesque sur les réseaux, et c'est probablement l'un des plus grands réseaux de fans au monde qui suit BTS. Donc c'est pas, les Coréens sont des habitués des réseaux sociaux actifs.
Des fans qui vont jusqu'à faire des vidéos mettant en scène des personnes qui reproduisent les différents challenges vus dans Squid Game. Marianne Chaillant, alors c'est drôle et inoffensif quand il s'agit de découper une forme dans un biscuit sans la casser, mais ça peut être beaucoup plus grave, dans d'autres cas.
Oui, je pense qu'on a tous eu connaissance de ces phénomènes dans les cours d'école et même à l'école primaire, où des élèves jouant à ces jeux reproduisent des scènes.
Que la série est interdite aux moins de 16 ans, il faut le rappeler.
Oui. Alors effectivement, là pour le coup, je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont permis cette connaissance de la série par ces publics si jeunes. Et donc ils sont dans ces processus mimétiques qui effectivement ne peuvent que nous interpeller.
Alors de nombreux événements sont créés autour de cette série, ils profitent du buzz et le créent à leur tour, c'est ainsi qu'à Paris le week-end dernier une boutique éphémère a ouvert et a donné lieu d'ailleurs à des émeutes en raison d'une influence générale. Une poupée géante du premier épisode a été installée à un passage piéton à Manille aux Philippines pour inciter les gens à ne pas traverser au feu rouge, donc ça c'est plutôt bien. Ou encore un hôtel de Gangyung en Corée du Sud va recréer certaines épreuves de la série pour ses clients et a vendu toutes les places en 2 jours, Ophélie Surcouf.
Je n'étais pas au courant, mais ça ne m'étonne pas du tout. Les Coréens sont très très forts pour rebondir sur absolument toutes les... Enfin, dès qu'il se passe quelque chose et qu'ils peuvent s'en servir pour faire la promotion du marketing, ils sont excellents et ils sont à des années-lumière de la plupart des pays du monde en termes de marketing.
Le marketing, justement, les chaussures Vans, qui sont similaires à celles portées par les joueurs dans la série, ont vu leur vente multipliée par 80, et les tenues des joueurs, comme celles des gardes, font partie des costumes d'Halloween les plus recherchés sur Amazon. Ça, c'est typiquement adolescent qui aime les images trash, Sophie Géel.
Oui, alors je pense que c'est ça, il faut voir la diversité des publics qui peuvent être intéressés par la série, la diversité des lectures aussi qui peuvent intervenir. Et donc pour ces adolescents, effectivement, l'horreur, ça fait partie des goûts culturels des adolescents. Et donc, ça vient s'insérer dans une culture du teen movie bien connue. Hein. Notamment, ça me faisait penser à La Poupée qui tue, par exemple. Enfin, mais il y a d'autres films que l'on pourrait citer. Donc, il y a les adolescents et puis il y a les jeunes enfants. Donc, l'école primaire dont nous parlions tout à l'heure. Il faudrait vérifier si ces enfants-là ont vu vraiment la série ou s'ils ont vu quelques petites séquences qui sont diffusées aussi justement de façon très fragmentée sur les réseaux sociaux numériques. Il est possible aussi que ce soit seulement ça.
Squid Game, le phénomène du moment. Vous écoutez le débat du jour sur RFI.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin.
C'est 1, 2, 3, soleil. Je compte jusqu'à 3. Avance vers moi.
Ouais, quel contraste entre ces deux sonorités, mais le même jeu. Un jeu drôle qui peut tourner au massacre. Là encore, il y a un paradoxe. Cette série Squid Game, alors c'est le jeu du calamar en français, hein, et notamment au Canada. Ça SM, des actes de brutalité ont été constatés dans plusieurs établissements en France ou en Belgique. Et dans un reportage de TF1, l'autre jour, on voyait un petit garçon qui témoignait de ce qu'il a observé dans son collège. Il disait ceci, il y a des gens en 3e et 4e, ils font 1, 2, 3 soleil et après, ils se tapent. Est-ce que Squid Game risque de créer de nouvelles violences dans les cours de récréation? Je vous pose la question à vous, Sophie Giel, qui êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université. Alors l'université, c'est pas l'école non plus.
Non. Je m'appuierai pas sur mes étudiants, mais sur les recherches que j'ai pu mener et qui montrent donc la diversité des réceptions. Donc il est possible que certains adolescents, effectivement, ou même enfants plus jeunes, répètent ou miment certains actes. Il ne faut pas en déduire qu'ils confondent pour autant la réalité et la fiction. Je pense qu'on est là dans un jeu. Et ce film, qui est tellement prenant, hein, vous avez insisté sur l'ampleur du phénomène de l'adhésion qu'il suscite, hein, des phénomènes de fanitude, hein, de passion, hein, qu'il déclenche. Ensuite, il faut voir comment les adolescents vont recevoir ou s'impliquer au moment du visionnage. Donc, il y a plusieurs manières, hein, de recevoir des images violentes. L'adhésion, c'est-à-dire le fait de coller à l'image, d'être dans l'action, si vous voulez, ça fait partie des modalités de réception, mais c'en est qu'une. Il y en a qui vont détester aussi le film, hein, il ne faut pas le sous-estimer, on va moins en parler, il y en a qui ne vont pas le regarder, et puis il y en a qui vont avoir beaucoup de distance. Et ensuite, reproduire, ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'on confonde la réalité et la fiction, ça peut être, des jeux un peu méchants se développent dans les cours de récréation et prennent des occasions diverses, enfin des modélisations qui peuvent être diverses. Et ce qu'il faut, enfin, ce que ça manifeste, hein, c'est surtout le fait que ces jeunes-là n'accèdent pas à la dimension éventuellement dénonciatrice, hein, la dimension à la signification, enfin, à certaines.
On va y venir sur le message que véhicule cette série. Ophélie Surcouf, vous connaissez bien la Corée du Sud. Les ados sont friands, hein, de tout ce qui est réseaux sociaux, séries, musique, mm-hmm. hein, avec des succès planétaires. Est-ce que cette série qui mêle les jeux d'enfants et la mort peut particulièrement troubler les plus jeunes, les adolescents?
En Corée, c'est un petit peu compliqué à dire parce que les adolescents sont très occupés à étudier quand ils sont au lycée ou au collège, mais c'est vrai qu'il y a déjà des phénomènes de violence entre élèves, donc alors après, est-ce que ça affecte plus ou moins, ça j'avoue je ne saurais pas dire, surtout par rapport à la France. Il n'y a pas eu assez de retour encore.
Carlo Fassino, est-ce que vous avez une opinion là-dessus?
Je la rejoins, parce que c'est vrai qu'on remarque beaucoup dans les séries coréennes le traitement du sujet du harcèlement, et notamment du harcèlement physique à l'école. Donc je pense que c'est déjà en fait présent dans leur quotidien, et que la fiction en fait s'empare du sujet, et aujourd'hui, dans Squid Game, ça comment dire, s'est menée à son apogée, finalement.
En tout cas, je reviens à ce qui se passe en France. Le ministère de l'Éducation nationale s'est préoccupé. Jean-Michel Blanquer en appelle à une responsabilité collective. Ne laissez pas les enfants seuls devant les écrans. D'ailleurs, ses services ont appelé les directeurs académiques et leur ont demandé d'être vigilants. Alors que sur Facebook, la gendarmerie du Rhône s'est fondue d'un message de prévention. Vous devez en parler avec vos enfants, surtout s'ils aiment regarder des séries sur Netflix. Sensibilisez vos enfants aux conséquences que cela peut engendrer. On voit bien que si les autorités s'en saisissent, c'est que cette violence banalisée dans l'esprit des plus jeunes pourrait provoquer des dégâts. Quelle opinion avez-vous là-dessus, Marianne Chaillant ? Est-ce qu'on est dans le catastrophisme ou au contraire, est-ce qu'on est dans une prévention salutaire ?
Alors, moi, j'ai des élèves qui ont 17-18 ans, des élèves de terminale, ils l'ont vu, leurs avis sont très partagés, effectivement, ils sont capables d'avoir un regard distancié. La série, mais j'ai entendu autour de moi dire que effectivement, dans des écoles primaires, il y avait des reproductions de ces jeux qui étaient suivies d'actions un peu violentes. Et alors, du coup, je pense que c'est une préoccupation légitime qu'on doit avoir. Tout à l'heure, on se demandait si ces élèves de primaire avaient vu la série. Ce que j'ai pu entendre, c'était plutôt par les réseaux sociaux qu'ils ont accès à certaines scènes de la série. Donc, effectivement, ils sont dans une reproduction mimétique, peut-être en comprendre toute la violence qu'il y a pour nous, spectateurs de la série, que nous voyons en regardant la série. Néanmoins, il y a quand même, effectivement, vous parliez de banalité de la violence, banalisation de la violence. Mais je crois que c'est un peu ce qui est choquant dans cette série, enfin, sinon choquant, du moins, qui nous interpelle. Dieu sait que je suis une spectatrice de séries télé. J'ai regardé la série Game of Thrones qui, à l'époque, avait beaucoup choqué par certaines scènes extrêmement violentes. Le sacrifice d'une jeune fille, une scène de viol, une scène d'humiliation de l'héroïne. Et j'avais regardé ces scènes et la violence me paraissait à chaque fois justifiée par une dénonciation assez explicite, assez évidente ou par des thèses philosophiques. Je dois vous avouer que quand j'ai regardé Squid Game, ça a été une rude épreuve où j'ai eu l'impression d'assister à ces brèves scènes d'humiliation dans Game of Thrones de façon continue durant 9 épisodes et c'était assez difficile à supporter. Sans pour autant voir les raisons de cette violence.
L'un de vos livres s'intitule donc In Pop We Trust, Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur. Vous pourriez écrire dans quelques mois Squid Game, une fin sombre et pleine de terreur.
Alors, pour le coup, c'est la seule chose que je reconnais à la série, c'est que la fin n'est pas sombre. Parce que, quelle question est posée parmi d'autres ? Qu'est-ce qu'on pourrait lire dans cette série ? Je pense qu'il y a une réflexion sur la nature humaine. Hein. Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ? Ou est-ce que c'est la loi du plus fort qui va régner, la force et la ruse ? Ou est-ce qu'on va voir une solidarité se nouer entre les candidats, alors même qu'ils luttent pour leur survie ? Et il me semble que pour le coup, ça finit pas mal, je ne veux pas spoiler pour vos auditeurs, mais on a cette petite teinte d'espérance que l'humanité a quelque chose de bienveillant au fond d'elle, malgré les choses.
Carlo Fassimo, programmateur du festival Sérimania.
Je ne suis pas tant d'accord que ça, en fait, sur la gratuité de la violence dans Squid Game. En fait, elle choque. J'ai moi-même eu du mal, d'ailleurs, à dépasser le pilote. Et finalement, en fait, ce que la série réussit brillamment, je trouve, à installer, c'est un peu l'attente. Et en faisant, en fait, attendre ces personnages, elle crée aussi beaucoup de psychologie et de relations, en fait, ces personnages. Du coup, on s'attache à eux, ils s'attachent entre eux aussi. Et finalement, on oblige des amis à concourir et à s'entretuer. Et c'est ça, je pense, qui est finalement pointé du doigt par la série, c'est qu'on les oblige à socialiser et en plus de ça, à instaurer de la violence entre eux.
Alors, y aurait-il un message ? En tout cas, le créateur de Squid Game affirme avoir voulu délivrer un message politique, s'attaquer aux dérives du capitalisme, ce qui n'est pas sans ironie puisque son film génère un véritable business. Un message d'ailleurs relayé voilà quelques jours très officiellement par la dictature nord-coréenne. Dans le jeu, les candidats ont une chance sur 456 de devenir millionnaires. Alors, il y a dénonciation de la perte des repères, de l'isolement, des humiliations, du désespoir d'une large part de la population sud-coréenne et par extension du monde entier. Est-ce que vous avez perçu ces messages voulus par le réalisateur, les uns les autres ? Sophie Géhel.
Oui, on peut faire une déconstruction de cette série en disant qu'elle reprend finalement, d'une façon plus crue parce qu'on est dans une fiction, elle reprend les scénarios de la télé-réalité. C'est-à-dire Il y a une cagnotte, il n'y en a qu'un qui l'aura, et c'est la trahison qui va permettre de gagner la cagnotte. Le message, alors est-ce que la télé-réalité pour autant critique du capitalisme, ça peut se discuter, mais on va dire que c'est une métaphore en tout cas d'une certaine dimension très compétitive hein, de notre monde néolibéral. Mais qui est-ce qui accède à cette interprétation, c'est un peu le problème. C'est là où, moi, plutôt que l'interdiction, j'avoue que le fait d'interdire, de signaler qu'il faut interdire le visionnage d'un film qui est, ou d'une série qui est déconseillée au moins de 16 ans à des enfants, il me semble que ça va de soi, il me semble que le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffuse ce genre de propos un peu régulièrement, de messages un peu régulièrement. Par contre, ce qui serait utile, c'est de faire des ateliers de réflexion sur qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde ces images, qu'est-ce que signifie la violence, pourquoi elle nous choque, etc. Donc ça renvoie à l'urgence d'une éducation aux médias et à l'information qui existe, mais qui est encore assez peu présente sur ces sujets.
Puisqu'on parle de politique, un mot de la Corée du Sud, hein, puisque c'est une série sud-coréenne, la situation est telle dans le pays que des personnes lourdement endettées en sont venues, paraît-il, à composer un numéro de téléphone attribué à Squid Game, croyant joindre les organisateurs du jeu pour y participer, car il faut savoir qu'il y a un mal-être en Corée du Sud, hein, Ophélie Surcouf, la dette des ménages est la plus élevée d'Asie. Et les familles accumulent des crédits et parfois ne pouvant pas les rembourser, sont acculées à des extrémités.
Il y a un énorme problème de dette personnelle, effectivement, en Corée. Alors après, le Covid a bien sûr empiré la situation. Mais de manière générale, de toute façon, cette opposition entre le riche et le pauvre, la difficulté, la différence entre les classes, c'est un sujet du divertissement coréen qui est présent depuis très longtemps. Et d'ailleurs, tous les projets coréens, tout ce qui a marché à l'étranger ces derniers temps, globalement, reprend ce thème de manière centrale, que ce soit Parasite, qui a gagné les Oscars l'année dernière, où justement c'était ce sujet-là qui était applaudi, que ce soit Le Dernier Train pour Busan, ou Kingdom, d'ailleurs une série de Netflix, où là les zombies sont au centre, et le zombie est vraiment la figure fantastique qui reprend justement toujours ce côté différence de classe, où finalement les pauvres sont ceux qui vont attaquer les riches qui ont réussi à survivre et à ne pas se faire contaminer par le virus. Et
il faut savoir qu'en majorité, pour des affaires de dette, ce sont environ 200 personnes qui, tous les ans, sautent du pont Mapo de Séoul, surnommé le pont de la mort. Et puis il y a un film, Squid Game, c'est aujourd'hui, c'est 2021, mais il y a un film que les plus de 50 ans ne connaissent pas, et qui est français, avec la même trame. C'est Le Prix du danger, réalisé par Yves Boisset, au début des années 80. Gérard Lanvin incarne le candidat de cette émission de télé-réalité avant l'heure.
Spectacle admirable, digne des gladiateurs de l'Antiquité, lorsque dans l'arène, ils se congratulaient. Un chevalier des temps modernes qui sait allier le courage d'aujourd'hui à la courtoisie d'autrefois. Et voici maintenant le moment du départ pour l'aventure. On l'applaudit !
On entend donc le présentateur de l'émission, Michel Piccoli, parler de jeux du cirque et de chevaliers. Et justement, dans Squid Game, dites-moi si vous êtes d'accord, l'un des spectacles montrés par la série est le dortoir des joueurs, dont les lits sont empilés le long des murs. Et ça ressemble étrangement aux tribunes d'un stade. Ça crée un effet d'arène. Peut-on parler de jeux du cirque 2021, Carlo Fascino?
Tout à fait, et même dans la mise en scène, en fait, des jeux qui finalement se déroulent aussi dans une arène type romaine, gréco-romaine. Donc clairement, on joue avec la notion de spectacle, de ce qui est donné à voir, à la fois pour ces organisateurs pervers du jeu dans Squid Game et pour le spectateur sur Netflix.
Vous avez vu également des combats de gladiateurs, finalement, des jeux du cirque, Marianne Chaillant, en regardant un ou deux épisodes?
Mais je me disais en vous écoutant que les arènes, si arènes Elias, elles sont les salons mêmes des spectateurs que nous sommes. C'est nous qui sommes les spectateurs de ces arènes et qui faisons le succès de cette série extrêmement violente. Donc c'est nous qui nous repaissons de ces jeux du cirque. Voilà. Et donc c'est un peu interrogé pourquoi nous sommes si friands d'un spectacle si violent. Peut-être qu'il y a quelque chose comme l'expression d'une catharsis, d'une sublimation. Peut-être qu'après cette période extrêmement violente que nous venons de subir, nous avons besoin de cette voilà, de cette sublimation à travers cette violence-là. Mais les arènes, ce sont nous. Ça nous renvoie quand même à nous-mêmes. Pourquoi nous regardons ce genre de programme?
Mais oui, mais c'est la question à laquelle j'aurais aimé une réponse ce soir. Pourquoi est-ce que l'homme est-il aussi avide de cruauté et de sa mise en scène?
Il y a un effet de catharsis, effectivement, comme disait Marianne Chaillon, qui est énorme. Et d'ailleurs, les séries coréennes excellent à ça. C'est pas le seul projet récent qui a été fait, d'ailleurs, où par exemple, il y a un drama récemment qui est sorti. Drama, pardon, c'est une série. C'est juste le terme asiatique pour série. Qui s'appelle The Devil Judge, où par exemple, ils organisent une énorme émission télévisée pour faire des cas de justice en public. Et c'est très, justement, c'est très mis en scène, tout le monde regarde, tout le monde adore, c'est dystopique. Et finalement, cette série, c'est un petit peu la même idée, toujours de mettre en scène des choses des jeux, des choses du quotidien qu'on va rendre démesurées et qui, du coup, vont être tellement distantes qu'on ne va pas s'y associer et créer un effet de catharsis.
Alors, est-ce que Squid Game ne fait pas du neuf avec du vieux, puisque la série ressemble au dernier film de Kenji Fukasaku, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du Japon? Son titre, c'est Battle Royale, et il était sorti en l'an 2000, Carlo Facino.
Tout à fait. Et il y a aussi une autre référence plutôt claire, c'est Jeux d'enfants de Takashi Miike. Après, moi, ce que j'ai identifié aussi dans Squid Game, c'est en plus de la violence, quand même une réflexion sur quelles sont les solutions, en fait, qui nous sont données quand on est dans une situation pareille. Et à travers le personnage de Sang Gi-hoon, je constate quand même que ce que la série défend, c'est plutôt des notions d'entraide, bien que parfois bancales, dans le personnage, mais l'intelligence, le courage, le pacifisme, en fait, constamment recherché, en fait, dans la série.
Et puis, il y avait ce fameux Fight Club de David Fincher, sorti en 1999 avec Edward Norton et Brad Pitt, un club de combat clandestin permettant à ses membres d'évacuer leur mal-être par la violence. Finalement, on se rend compte que tous les 10 ans, on a droit, finalement, à ce genre de scénario et d'hyper-violence, Marianne Chaillant.
Oui, c'est vrai, c'est m'a surpris, je me suis moi-même fait la remarque, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement de faire de nouveau avec de l'ancien? Moi, je pensais à Hunger Games, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent cette référence littéraire et cinématographique, c'est un peu des Hunger Games auxquels on assiste, et ce qui est particulièrement terrible en fait, c'est que les candidats de Squid Game ne sont pas, on dit qu'ils sont consentants parce qu'il y a ce contrat, parce qu'ils peuvent sortir et qu'ils reviennent, mais si on prête vraiment attention à leur sort individuel, ils sont, pour tous, leur survie est en jeu. Donc la question, c'est, le spectacle devient particulièrement atroce, c'est que ces gens-là sont vraiment acculés à rentrer dans ce système, il n'y a pas de consentement véritable. Le héros a signé, juste avant de rentrer dans le jeu, un papier où on va lui prélever ses organes vitaux, donc il est mort, il n'a pas le choix.
Là, on est sur des films événements ou des séries événements, donc je le disais à peu près tous les 10 ans, mais Sophie Gael, il y a finalement le quotidien. Semaine après semaine, on n'est pas loin de la télé-réalité de Koh-Lanta ou de Survivor aux États-Unis qui en est à sa 41e saison.
Oui, oui, on est sur des scénarios de la survie, du modèle de survie, et il faut se rappeler que c'est quand même un modèle politique derrière, c'est l'idée que nous serions tous en compétition et que finalement le fait que nous soyons amenés pour conserver nos métiers, nos places, etc., éventuellement à des postures de trahison, finalement, la seule catharsis moi que je vois dans le film, c'est que ça pourrait relativement déculpabiliser les gens en leur disant finalement on n'a pas le choix, on est dans un monde de survie, ce qui est quand même un modèle dont je doute, si vous voulez, qu'il puisse complètement permettre de déconstruire la violence et la cruauté de notre monde actuel.
Squid Game, donc, sur Netflix, avec peut-être un tel succès, une série 2, une saison 2, certainement, Carlo Facino.
Pas encore confirmé, mais je pense que toutes les personnes concernées sont en train d'en discuter à une table.
Voilà, et puis Squid Game chez vous dans quelques jours, parce que nul doute qu'un certain nombre de gamins se déguiseront pour Halloween en allant chercher des bonbons avec ces masques terrifiants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur RFI sur ce phénomène Squid Game, le Playmobil de l'horreur, disait l'une d'entre vous tout à l'heure. Merci pour vos commentaires, vos éclairages très pertinents. C'était le débat du jour réalisé par Laurent Philippot dans moins d'une minute, un nouveau journal sur Radio France Inter.
ce 22 octobre.